C'est le troisième dimanche où nous picorons dans les premiers chapitres du livre des Actes. Non pas à la recherche de l'Église idéale, vous l'avez compris, mais en quête d'un fondement pour l'Église d'aujourd'hui, pour notre Église. Alors, dimanche dernier, nous avons fini par démasquer qui était le personnage principal du livre des Actes. Vous en souvenez? Les gens ont horreur qu'on leur fasse passer des interros comme ça. Ils sont là. Laissez tomber. Donc, c'était pas Pierre, c'était pas Paul, c'était même pas les 12 qui pourtant étaient aux commandes. Ni même Étienne. Qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Christ, dans ce passage, c'était la parole. Le livre des Actes est celui qui parle le plus de la parole. Et nous avons découvert deux vérités précieuses. Premièrement, que l'Église n'est pas un idéal à atteindre, et que l'Église, avant même d'être missionnaire, avant même d'apporter la parole au monde, doit apprendre à se laisser porter par la parole. Vous vous souvenez? Ces deux vérités-là qui font route avec nous depuis que j'ai commencé ce cycle. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un nouveau personnage des débuts de l'Église. En réalité, deux nouveaux personnages, Philippe. Bon, c'est l'un des sept hommes que les apôtres ont attachés au service des tables, service social de l'Église. Et oui, vous vous souvenez qu'on ne les verra pas tellement au service des tables, hein, on les verra surtout au service de la parole. C'est Luc qui met en scène ça, qui nous les décrit comme ça. Donc après Étienne, le prédicateur, c'est au tour d'Étienne, de Philippe, d'entrer en action. Et ce matin, on va aller à la rencontre d'un autre personnage qui s'appelle Simon. Simon le magicien. Avec Simon, Luc veut nous apprendre quelque chose, je crois aussi, de très important, que nous savons peut-être déjà, ce sera alors qu'une simple révision, mais ça ne fait pas de mal. Cette chose-là, c'est que si l'Église doit premièrement apprendre à être portée par la parole, il serait temps aussi qu'elle prenne conscience de l'importance de travailler sa foi. Travailler sa foi. Ce Simon a laissé une bien vilaine empreinte dans l'histoire. Si vous essayez de faire commerce de choses religieuses, de vendre en ligne, essayez, enfin n'essayez pas, mais des reliques, ça se fait hein, sur Internet, en tout genre, et comme on a vendu ce petit bout de croix, made in Golgotha, à prix d'or, eh bien, vous commettez, voilà, un péché de simonie. Expression évidemment forgée par l'Église, à partir de très vieille expression, à partir du nom de ce pauvre Simon, le magicien, dont j'aimerais ce matin me faire un peu l'avocat. En effet, Simon propose aux apôtres de l'argent pour acquérir la licence d'exploitation du Saint-Esprit. Mais cette tentative, quand même un peu bizarre, du monnayage de l'Esprit-Saint par Simon le magicien, ne doit pas faire écran, je pense, à l'interpellation profonde que Luc désire nous faire entendre, à nous, lectrices, lecteurs, que nous sommes ce matin. Ce malcroyant de Simon, qu'on aurait bien envie d'envoyer à la suite de Pierre aux gémonies, de le vouer aux gémonies, d'excommunier ce genre de fidèle, pas du tout dans l'axe de ce qu'il faut, ce malcroyant de Simon. Je crois que ce malcroyant de Simon ne désirait rien d'autre que de devenir un super croyant. Un croyant super puissant. Un croyant idéal. Sœurs et frères, je dois confesser que moi aussi je suis un malcroyant. Que je ne suis en tout cas pas le croyant à 100% que je voudrais. Peut-être même, partagez-vous cette confession avec moi. Mais ce constat, un peu déprimant d'être malcroyant, ne doit pas du tout nous accabler, de finir de nous accabler. Au contraire, je crois qu'à partir de ce constat, nous pouvons nous mettre au travail pour que ce peu de foi ou cette malcroyance se transforme en autre chose, s'affermisse et prenne belle allure dans nos vies. Oui. Luc veut nous dire que la foi est quelque chose qui se travaille, qui se cultive, qui se soigne. Le tout, d'ailleurs c'est une bonne nouvelle, hein, ça, rien que le fait de savoir qu'on peut travailler cela. Le tout est de ne pas se tromper de méthode pour mener à bien ce travail. Et on va s'y consacrer ce matin, à la méthode. Reprenons l'affaire depuis le début. Simon, le magicien, tenait dans l'émerveillement, d'autres traductions disent la stupéfaction, la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu'un de grand, et tous s'attachaient à lui, du plus petit jusqu'au plus grand. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Les foules, c'est même leur caractère principal, c'est bien connu, elles sont versatiles, elles changent rapidement. Il suffit que quelqu'un d'autre arrive dans le secteur avec de la puissance. Et les foules changent aussitôt de direction. Elles se mettent à suivre ce Philippe qui arrive de Jérusalem. Elles n'ont d'ailleurs pas perdu au change avec ce Philippe. Elles passent de la magie de Simon au miracle de Philippe, avec le même enthousiasme, le même émerveillement. Et Luc soigne même la correspondance du langage de manière assez étonnante. Simon, l'émerveilleur des foules, va devenir, après sa conversion et son baptême, Simon l'émerveillé devant Philippe. Simon, Philippe, il semble que l'on reste quand même dans un même registre, celui de la démonstration de puissance. Les foules suivaient Jésus aussi, hein, dans l'évangile de Luc, c'est une même œuvre, Luc Acte, hein, on en a parlé. Elles suivaient Jésus avec ce même sentiment d'émerveillement. Non seulement elles suivent là, non seulement pour les miracles, mais aussi pour la parole. Il y a un double émerveillement peut-être. Et donc en plus de rechercher le spectaculaire, tous se mettent à croire aux paroles de Philippe, les foules samaritaines et Simon. Mais il y a une sorte un peu d'ambivalence, je ne sais pas comment dire, dans le récit de Luc, il y a chez Simon et dans la foule ce double désir, ce désir un peu frénétique de voir du miracle, de consommer du miraculeux. Et d'autre part, il y a ce désir d'écouter, de recevoir la parole. Il y a la foi qui naît de la parole. Deux réalités qui me semblent peut-être un peu en tension, mais qui cohabitent chez le croyant. Alors les apôtres, qui ont entendu tout ce qui se passe en Samarie, arrivent à leur tour. Ils prient, ils imposent les mains, le Saint-Esprit est reçu. D'ailleurs, sans que Luc nous explique exactement ce qui se passe, hein, avec le baptême du Saint-Esprit. C'est souvent nous qui collons d'autres choses, d'autres textes, mais là, chez Luc, c'est reçu. C'est demandé et c'est reçu. Simon voit ce qui se passe par la main de Pierre et Jean et entre en scène avec une idée, pas très inspirée. Voilà ce qu'il dit aux apôtres. « Accordez-moi à moi aussi ce pouvoir afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Entendez bien qu'il n'est pas dit dans le texte de Luc qu'il veut faire payer ses services aux gens. Hein ? Il ne veut pas faire payer les impositions des mains. Il propose en fait de faire ce que font les apôtres. Luc a précisé que Simon était devenu croyant, qu'il avait reçu le baptême d'eau. Et il n'y a rien d'ironique dans cette précision, comme pour faire un effet de contraste, vous voyez, en disant « Non, en fait, il n'est pas converti. » Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de cynisme de la part de Luc. Simon est croyant. Et on peut entendre dans cette demande de Simon aux apôtres l'expression d'un désir sincère de contribuer à la mission de l'Église. Mais il le fait en restant dans sa propre logique, dans sa vision des choses. Simon a toujours été au centre des attentions. Il s'est toujours senti investi, Simon. Détenteur du pouvoir et aussi de l'attention des autres. Simon est quelqu'un de très auto-centré, on dirait aujourd'hui. Et il revendique maintenant ce pouvoir d'imposer les mains. Il le désire tellement qu'il propose un petit don en nature, un petit don en argent, pardon. Et ça, c'est le pas de trop. Il commet une faute. Une faute qui révèle sa malcroyance, puisqu'il est croyant, nous dit Luc. C'est pas une faute morale que commet Simon. Dès qu'on dit qu'il y a de l'argent, on dit « Oh là, un problème moral ». Non, c'est un problème théologique. Il propose d'acheter ce qui est gratuit. Le don de Dieu, qui est libération, paix, salut, amour, nous l'avons entendu ce matin, est gratuitement offert à tous, gratuitement. C'est l'accomplissement de la vieille parole d'Ésaïe qui disait « Vous qui avez soif, venez vers les eaux, venez sans argent, sans rien payer. » Déjà, c'était annoncé, la grâce exclut toute contrepartie, tout monnayage. Allons, me direz-vous, on est des protestants. Loin de nous cette idée saugrenue d'acheter la grâce. En quoi cette histoire nous concerne-t-elle? Ce serait une question légitime. Eh bien, permettez-moi, sœurs et frères, d'interroger quand même notre rapport à la grâce. Est-il toujours aussi libre, aussi gratuit qu'on le prétend? Peut-être offrons-nous à Dieu de temps en temps notre service, notre culte, notre combat pour la justice, notre humilité même, dans l'espoir non avoué, peut-être même inconscient, d'une petite contrepartie, une petite rétribution, pas grand-chose. Alors bien sûr, cette offrande n'est pas une monnaie d'échange contre la grâce, tout au plus un petit plus qui nous rendrait un petit mieux, un petit peu plus mieux croyant, vous voyez, c'est une espèce de donnant-donnant, là, quelque part. Sœurs et frères, l'engagement dans l'Église, j'en suis convaincu, dans les œuvres, la piété, l'humilité, tout cela est merveilleux et très beau et très bon. Le problème n'est pas dans l'exercice de ces belles choses, mais dans la valeur, dans le sens que nous leur attribuons. Je serai toujours marqué par cette personne qui un jour me disait, un chrétien de l'Église, qui me disait, À quoi ça sert d'être chrétien si c'est pour souffrir autant ? Comme si être chrétien allait nous faire venir une sorte de vaccin qui nous immuniserait contre la souffrance. Sa remarque de malcroyant était tellement honnête, tellement sincère, que je n'ai pu que l'accueillir et pleurer avec lui. Nous sommes ainsi croyants, c'est-à-dire réellement attachés à Jésus le Christ. Nous sommes justifiés, nous sommes graciés, oui, et en même temps, nous sommes empêtrés dans nos malentendus de malcroyants. Si on a un peu d'honnêteté, on consentira à signer cette déclaration, comme Simon l'était. L'Église, c'est un peu provocateur ce que je dis là, mais je le dis quand même, est le rassemblement des malcroyants. C'est-à-dire, entendez-moi bien, des croyants qui n'ont pas encore résolu tous leurs problèmes de foi, qui en ont conscience et qui se tournent vers Dieu pour demander sa lumière, son pardon, son inspiration, sa force. Vient la réponse de Pierre, que je trouve très dure. Je la trouve d'autant plus dure quand je me souviens du premier prénom de Pierre dans les évangiles. Simon. Ce Simon-Pierre dans l'évangile de Luc est le type même du malcroyant. Il manque de confiance, il a peur, il renie, vous savez tout ça. Il aurait pu témoigner à l'égard de ce Simon, le magicien, d'un peu plus de fraternité. Cette histoire entre Simon le magicien et Simon l'apôtre finit d'ailleurs en queue de poisson, si j'ose dire. On ne sait pas trop ce qui est arrivé à Simon. Ce n'est pas écrit, on ne sait pas. En tout cas, il n'expire pas, comme Ananias et Saphira. Alors que la menace n'était pas loin, quand même, dans les paroles de Pierre. L'avenir de Simon est inconnu. Il est peut-être ouvert à écrire. Il y a ici une petite place pour l'espérance. Le malcroyant peut chercher à tirer profit de son égarement pour croire un peu mieux. Et pour cela, il faut travailler sa foi. Et comment travailler sa foi ? Nous y venons. Je suis un peu lent ce matin. Mais le texte est quand même très riche. Ça vous gêne un peu cette expression de travailler sa foi ? Non ? Parce qu'il est vrai que la foi est un don, nous le confessons, don de Dieu. Mais une fois reçu, qu'est-ce qu'on en fait de ce don ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce cadeau ? Ce n'est pas interdit de chercher à le faire vivre, à le faire croître, comme dans la parabole des talents. Je vous propose deux outils, deux moyens pour travailler votre foi, pour travailler la mienne, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs dans l'esprit du temps. Le premier outil, c'est de prendre en compte la notion de durée, de temps. Vous vous en rendez compte chaque instant, comme moi, je suppose, nous vivons dans une époque de l'immédiateté. Tout doit être résolu tout de suite. Tout de suite. Voilà la philosophie de notre temps. La consommation, la pensée, l'action et même la foi doivent se plier à cette exigence de l'immédiateté. Si je viens au culte, c'est pour aller bien en sortant, pas pour me poser des questions. L'acte de foi doit capter la bénédiction tout de suite et la consommer derrière. La foi est comprise comme une puissance qui va nous transformer en un clin d'œil. Eh bien, vous savez, ça, c'est la foi de Simon le magicien. Elle veut capter tout de suite, toute la puissance de Dieu, pour en faire tout de suite, autour de lui, la démonstration de puissance. Pierre va lui suggérer un autre programme de remise en forme. S'arrêter. Net. Et de retravailler sa relation avec Dieu. Travailler sa foi sur d'autres bases. Il lui indique un chemin à prendre, clair. Repens-toi. Prie Dieu. Et cette malfaçon de croire te sera pardonnée. Il ajoute peut-être. Mais après les trois reniements, il l'a obtenu avec une pleine certitude. Pierre. Mais tout ça prend du temps. Comprendre d'abord ce qui fait obstacle en nous à la relation avec Dieu. Vous croyez que c'est facile ? Ça prend du temps. Entrer dans ce chemin étroit et douloureux de la remise en cause, de la repentance, du renoncement donc à une partie de sa façon de vivre, de croire, d'aimer, ça prend du temps. Discerner aussi l'appel de Dieu qui résonne pour nous ouvrir à une vie nouvelle, ça prend du temps. Si en plus on doit découvrir tout cela dans la Bible, alors il faut la lire. Ça prend du temps. 6 ans même, il y a un programme très intéressant. Une relation, nous le vivons chaque jour dans nos familles, avec nos amis, dans notre couple. Ça prend du temps pour être approfondi. Ça se soigne dans la durée. Ça connaît des accélérations. Amen, alléluia. Ça connaît aussi des baisses de régime. Il faut s'accrocher. La foi n'est pas seulement cette explosion mystique d'un instant. Elle est un long chemin de vie, parsemé d'expériences qui façonnent la relation avec Dieu, lui donnant sens et profondeur. C'est la marche d'une vie. Voilà pour le premier outil, le temps. Le deuxième outil, peut-être un peu plus psychologique, je ne sais pas, plus intérieur. Ce deuxième outil dont notre foi a besoin, c'est un peu son repositionnement dans la relation avec Dieu et dans l'existence. Ce repositionnement est important et est essentiel. Pierre dit à Simon, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Attention, alors là, il ne faut pas commettre justement un contresens, parce que dans le langage biblique, le cœur, ce n'est pas comme chez nous, dans notre langage, le siège des émotions. Le cœur, c'est le centre du réacteur. C'est le centre de toute la personne, intelligence, intuition, compris. Et le mot « droit » aussi, « ton cœur n'est pas droit », n'est pas ici en lien avec le registre moral. Je l'ai dit tout à l'heure, plutôt théologique. Il n'est pas droit, le mot grec évoque le registre quasi géométrique. C'est-à-dire structurel de la personne. Pierre dit à Simon que sa foi n'est pas bien positionnée, orientée dans la relation avec Dieu. Qu'il y a des malentendus, des incompréhensions, qu'il y a des manques importants, il y a des zones d'ombre à éclairer, qu'il y a du boulot. Et il le dit avec violence, mais il le dit pour Simon. Donc vous voyez que pour Pierre, la foi n'est pas un ingrédient qu'on ajoute au reste de notre recette existentielle. Hein ? Pas du tout. Un petit plus. La foi, la relation avec Dieu, redimensionne notre vie, donne sens à toute notre existence, jusque dans ses moindres recoins. Elle transforme dans le temps toute notre existence dans tous ses aspects. Rien n'y échappe. Et si nous travaillons avec soin notre foi en Christ, je le crois, nos vies vont devenir méconnaissables. Nous, les malcroyants, pouvons devenir, avec un peu de patience, un peu de travail, des croyants capables de déplacer ces montagnes d'agressivité, ces montagnes d'égoïsme, ces montagnes de rancœur, de peur, d'indifférence qui plombent nos vies et qui éloignent nos vies du projet de Dieu pour nous. Je terminerai avec cette remarque finale de Simon à Pierre. Priez vous-même le Seigneur en ma faveur. Alors, j'ai longtemps entendu cette parole comme une remarque un peu désabusée. Faites ce que vous voulez, moi je m'en vais. Et je ne crois pas que c'est ça. On peut y percevoir un aspect important de la vie de prière de l'Église, justement. Quand je ne suis plus capable de savoir où aller, de prier comme il faut, d'autres dans l'Église peuvent le faire pour moi. C'est ça une communauté, c'est ça une Église. Supportez-vous les uns les autres, écrira Paul. Ensemble, malcroyants, mais aimés de Dieu, nous mettons en commun nos souffrances, nos problèmes de foi, nous les portons ensemble, nous prenons soin de notre foi et de celle de nos frères et sœurs, quand ils le demandent, quand ils en expriment le besoin. J'allais finir cette prédication par le mot habituel « Amen » et je préfère aujourd'hui nous laisser avec le mot « au boulot ».